Vous écoutez CFM. Dans quelques instants, la nouvelle émission mensuelle Visa pour l'inconnu va vous faire explorer des événements de l'histoire grâce à trois récits extraordinaires. Comme son nom l'indique, cette émission va vous proposer de vous évader sur des chemins de traverse. Nous le ferons de deux façons différentes, soit en recevant un ou plusieurs invités, soit en vous racontant des histoires pas ordinaires. Aujourd'hui, nous avons retenu trois sujets pour vous. L'assassinat du procureur Fualdès, le mystère de la papesse Jeanne, et enfin, la crise boursière de 1929 aux États-Unis. C'est parti, générique. Visa pour l'inconnu. Émission proposée et présentée par Michel Montbressou et Didier Dumas.
Vous êtes à l'écoute de CFM Radio, fréquence 90.2 à Villefranche, CFM Radio Figeac 101.6. Nous sommes heureux de vous retrouver, Didier Dumas et moi-même, Michel Montbressou, et nous allons vous raconter, comme il a été dit, trois histoires pas ordinaires du tout. Et la première, c'est celle de l'affaire Fualdès. On va parler de la mort tragique du procureur Fualdès, qui en d'autres temps a beaucoup animé les conversations et puis la presse pour ce qu'elle était à l'époque. L'affaire d'Himard, le 20 mars 1817. Il s'agit d'un drame qui vient troubler la calme ville de Rodez. Oui, une ville qui était calme, elle est encore, mais on y est bien. Alors cette ville est dotée d'une majestueuse cathédrale. Le jour du 20 mars 1817, des lavandières qui se rendaient sur les bords de l'Aveyron avec leurs paniers de linge découvraient une forme sinistre qui flottait sur l'eau. C'était le cadavre du procureur Fualdès, un homme riche et respectable. L'émotion fut à son comble quand on apprit qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais bel et bien d'un crime. Le procureur Fualdès avait été égorgé. L'une des plus mystérieuses affaires criminelles qu'ait connue la France commençait. Le juge d'instruction Tella examina longuement le cadavre qui était allongé sur une table de la mairie. Le corps avait séjourné peu de temps dans l'eau. Il portait une affreuse blessure à la gorge. La carotide avait été tranchée et la mort avait dû être immédiate. Quelques heures à peine après le début de l'enquête, les gendarmes de Rodez faisaient une découverte qui allait orienter les recherches. La canne du procureur Fualdès fut retrouvée dans une rue étroite de la ville, la rue Hebdomadier. Cette rue était connue dans la région pour la maison qui s'y dressait au numéro 5, une maison fréquentée par les commerçants et les forains qui se rendaient aux grosses foires de la ville. Une maison malfamée où des filles moyennaient leur charme avec toute la discrétion qui était nécessaire à cette époque. Les gendarmes questionnèrent les voisins et les lances des lières. Une des pensionnaires de la maison avait été vue le matin même, lavant du linge taché de sang dans la rivière. Au cours de la nuit, des bruits étranges avaient réveillé les habitants du quartier. Quelque chose s'était passé au cours de la nuit, au numéro 5 de la rue Hebdomadier, quelque chose qui avait un rapport avec la mort du procureur Fualdès. Les témoignages affluaient. Un pêcheur avait vu des hommes jeter un paquet suspect dans la rivière. L'affaire se répandait dans la région et bientôt dans toute la France. Elle provoqua une si vive émotion à cause de la personnalité de Fualdès que pour la première fois dans l'histoire de la presse, les grands journaux parisiens dépêchèrent à Rodez des envoyés spéciaux pour informer au jour le jour les lecteurs passionnés par cette affaire vraiment exceptionnelle. Voici la description qu'a fait l'un de ces journalistes de la maison de la rue des Hebdomadiers. C'était une maison chétive d'apparence, avec un rez-de-chaussée, un premier et un second en mansarde. Elle était louée à une famille de pauvres Espagnols qui logeaient au premier étage, à une certaine Anne Benoist, qui abritait le second, et aux époux Bancal, qui vivaient au rez-de-chaussée. Ce dernier logement se composait d'une cuisine et de deux petits cabinets. La cuisine était vaste, noire et humide. La cheminée était haute et large. Dans une alcôve se cachait un lit derrière des rideaux troués. C'est là que fut assassiné le procureur. Joseph Bernardin Antoine Fualdès était né en 1761. Il avait fait ses études à Toulouse, avait été nommé avocat au Parlement de cette ville. Après son mariage en 1789, il fut élu administrateur du département de l'Aveyron. Appelé par Robespierre, il monta à Paris et devint juré au tribunal révolutionnaire de sinistre réputation. C'est ainsi qu'il fut l'un de ceux qui envoyèrent à la mort Charlotte Corday. Bien vite, les atrocités de la Révolution le lassèrent et il refusa d'alimenter davantage la guillotine en condamné de tout genre. Il retourna à Rodez et redevint un simple juge. En 1811, il fut nommé procureur impérial parce qu'il avait su, au bon moment, se rallier à Napoléon. C'était donc un personnage. Mais en 1816, la Restauration le fit d'office, le mit d'office à la retraite. Il avait alors 55 ans. Il jouissait d'une solide santé et de revenus confortables. Pour arrondir ses économies, Fualdès prêtait de petites sommes d'argent. On ne lui connaissait pas d'ennemis. Qui pouvait en vouloir à un paisible retraité vivant tranquillement dans une petite ville de province? On découvrit que Fualdès avait prêté de l'argent à un certain Jean Sion. Lorsque le procureur réclama l'argent qui lui était dû, Jean Sion lui avoua qu'il ne pouvait rembourser sa dette. Fualdès se montra inflexible, le ton monta. Fualdès devint franchement menaçant. Alarmé, Jean Sion quitta l'ancien procureur et rendait visite à son beau-frère, le sinistre Bastide, une brute sans scrupules qui, lui aussi, devait de l'argent au procureur. Les deux hommes décidèrent de supprimer leurs créanciers et ils préparèrent le piège fatal. Pour quelques louis, ils s'assurèrent la complicité du ménage bancal qui logeait au rez-de-chaussée du numéro 5 de la rue des Hebdomadiers. Trois hommes et la femme bancal ne suffisait peut-être pas pour réduire à l'impuissance l'ancien procureur. Un nommé Collard vint grossir la troupe des assassins. Et on enrôla encore deux autres gaillards, le portefeuille Bousquier, qui serait chargé de faire le guet, et un pauvre bougre, Missonnier, l'idiot de la ville. Bastide avait même prévu qu'un joueur d'orgue de barbarie étoufferait les cris de la victime en jouant une complainte au bon moment. Tout était prêt pour faire disparaître le créancier intransigeant. Le 19 mars 1817, vers 8 heures, le procureur Fualdès apparut au bout de la rue des Hebdomadiers. Il se rendit au rendez-vous de Bastide. Tenant sa canne dans une main, un portefeuille sous le bras, il arriva devant la porte de la maison bancale. Soudain, cinq hommes se précipitèrent sur lui. Surpris, Fualdès laissa tomber sa canne. Il fut entraîné dans la maison. À la lueur tremblotante d'une bougie, il reconnut ses agresseurs, Bastide, Jean Sion et les autres. Assis de force devant une table, bâillonné, Fualdès se vit contraint de signer des papiers, annula les dettes de ses agresseurs. Effrayé, il signa. Alors Bastide dit d'une voix terrible « Ce n'est pas tout de signer, maintenant il faut mourir. » Fualdès comprit qu'il était perdu. Il se redressa, tenta de fuir. Mais Bastide le rattrapa, le repoussa avec violence contre la table. Collard et Bancal le saisirent aux épaules et le plaquèrent contre le bois. Bastide saisit un long couteau et, de toutes ses forces, plongea la lame dans la gorge du malheureux. Fualdès poussa un hurlement et mourut dans un flot de sang. Tous les témoignages concordaient. Le juge Tella arrêta aussitôt Bancal et sa femme, Collard, Bousquet et Missonnier. Un homme se présenta bientôt devant le juge d'instruction. C'était le valet de chambre du procureur Fualdès. Il avait surpris un homme en train de fouiller dans le bureau de son maître. Cet homme avait ouvert le secrétaire à l'aide d'une clé que Fualdès portait sur lui le soir du meurtre. Cet homme était Jean Sion. Le juge Tella l'arrêta aussitôt. Puis ce fut le tour de Bastide, que tous les témoins avaient reconnu. Au moment où l'affaire paraissait élucidée, alors que le juge Tella commençait la conclusion de son instruction, un nouveau personnage apparut dans ce drame mystérieux. Il s'agissait d'une femme, Clarisse Manson. L'arrivée de ce nouveau témoin allait bouleverser l'instruction, jeter le trouble sur le procès, compromettre la valeur du jugement. Car cette femme était une véritable hystérique. Son premier témoignage, recueilli par un officier de gendarmerie, accusait Bastide et Bancal. Clarisse Manson affirmait avoir assisté au crime caché derrière le rideau troué de la cuisine. Mais dès le lendemain, Clarisse Manson revenait sur ses aveux. Quelques jours après, elle accusait de nouveau, puis elle se rétractait encore. Un peu plus tard, elle changeait encore de version. On lui donna un surnom, Madame Mensonge. Clarisse devint la véritable vedette de ce procès sensationnel, et de partout, les admirateurs affluaient pour voir et parler à cette énigmatique jeune et jolie femme dont la réputation laissait espérer à chacun ses grâces et sa bonne volonté. Éclipsée par l'étrange Clarisse Manson, l'affaire Fualdès rebondit à nouveau à l'ouverture du procès. Mais c'était surtout pour approcher cette mystérieuse créature que le public se pressait dans la salle du tribunal. Le numéro mis au point par Clarisse était parfait. Quand une question trop précise lui était posée, Clarisse s'évanouissait et évitait ainsi de répondre. Le jury pardonna ses faiblesses et reporta sur les accusés toute sa sévérité. Bastide, Jean Sion, Collard, Bousquet furent condamnés à mort. Mais un nouveau rebondissement relança les passions. Les avocats de la défense avaient trouvé un vice de forme et le jugement du tribunal de Rodez fut cassé. L'affaire fut renvoyée devant le tribunal d'Albi. Ce nouveau procès confirma la condamnation à mort de Jean Sion, Bastide et Collard. Les autres accusés, eux, se virent infliger des peines de prison. La vedette de l'affaire, Clarisse Manson, fut acquittée. Transférée à Rodez, les trois condamnés furent exécutés le 3 juillet 1818. Depuis plus de 200 ans qu'a été classée l'affaire Fualdès, les passions ne se sont pas éteintes chez les magistrats et surtout chez les historiens. Aujourd'hui encore, juristes et historiens avancent plusieurs hypothèses. Car pour beaucoup, l'affaire Fualdès reste l'une des plus magistrales erreurs judiciaires de notre temps. Le bâtonnier Damien, qui a longuement et soigneusement étudié le dossier de l'affaire, exprima ses réserves dans les colonnes d'Historama sous le titre « Envoya-t-on trois innocents à l'échafaud ?» le bâtonnier Damien démonte complètement l'affaire Fualdès. Il nous apprend ainsi que tous les témoins à charge se sont rétractés après le deuxième jugement. Certains feront cette confession sur leur lit de mort. Le prêtre qui a donné l'absolution aux assassins au moment de leur exécution est revenu bouleversé et s'est écrié « Ils sont innocents, ils sont morts martyrs et ils sont au ciel ». Jamais les trois accusés n'ont avoué leur crime, il est vrai. Toute l'accusation repose sur deux témoignages fragiles. Celui de l'hystérique classique Clarisse Manson et celui de la plus jeune des filles bancales, Madeleine, âgée de 9 ans. Enfin, certains documents tendent à prouver que tous les condamnés n'étaient pas présents à Rodez le soir du meurtre. Ils ne pouvaient donc commettre ce crime. Enfin, Jean Sion, qui serait à l'origine du montre, n'avait en réalité aucune difficulté d'argent à ce moment-là. Alors, une hypothèse est avancée par le bâtonnier Damien. Le soir du 20 mars 1817, l'ancien procureur Fualdès se rend au 5 de la rue des Hebdomadiers pour rencontrer l'une des filles de joie qui hante la maison. Mais il est reconnu par des ivrognes qui savent qu'il porte toujours de l'argent sur lui. Et il le tue pour le détrousser. L'affaire Fualdès se termina-t-elle par une erreur judiciaire? Aujourd'hui, alors que les passions se sont éteintes, cela paraît vraisemblable. Le malheur des trois hommes exécutés peut-être à tort a été de rencontrer sur la route cette Clarisse Manson qui, par ses mensonges et ses faux témoignages, a influencé le jury. Pour les trois assassins du procureur Fualdès, qui de toute façon n'étaient pas des enfants de cœur, la mort avait pris les traits d'une jeune et jolie femme.
Michel, cette belle histoire a été ponctuée aussi par les écrits de Victor Hugo dans Les Misérables. Et on note aussi que Balzac ainsi qu'Anatole France, de ces nos célèbres écrivains, en ont fait mention dans leurs écrits aussi.
Je vois que tu es bien informé et ça donne de l'appui au fait que nous ayons choisi cette histoire.
Alors maintenant, avant de lancer la seconde histoire qui est l'histoire d'une légende répandue au cours de la Renaissance, celle de la papesse Jeanne, qui serait cette femme montée sur le trône pontificale, elle aurait régné sous le nom de Jean VIII pendant plus de 25 ans. A tout de suite, après cette pause musicale.
Les gens qu'on ne regarde pas sont des trésors oubliés. Il y avait tant de choses en toi et peu de gens pour les aimer. Moi je garde nos images que je regarde souvent. Avant de tourner la page, faut le vouloir finalement et demain. Je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien. Les gens qu'on ne regarde pas sont des livres jamais lus. Moi j'ai vu au fond de toi un vieux roman qui m'a plu. T'étais pas parfait peut-être, mais tout est à l'imparfait maintenant. Tu es de ceux qu'on regrette, parfois génial, parfois gênant. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien. J'avais pas d'horizon, j'avais le cœur en carton. Je ne voyais que moi, merci pour ça. Un vagabond errant, une feuille dans le vent. J'étais qu'un demi-moi avant toi. Avant toi. Avant toi. Avant toi. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien avant toi, je ne voyais rien.
La papesse Jeanne. Entre 1200 et 1700, c'est-à-dire durant cinq siècles environ, apparurent des chroniques relatant l'événement le plus incroyable, le plus extravagant de l'histoire de l'Église catholique. Parmi les chroniqueurs les plus sérieux, on peut citer Martin Polonus, le franciscain d'Erfurt, et aussi le texte de la célèbre chronique universelle de Metz qui, dans l'ensemble, n'est guère contesté. Outre ces références, on allègue parfois de l'existence de 11 textes qui furent recensés ultérieurement et qui auraient été écrits entre 886 et 1279. Mais l'authenticité de ces textes est aujourd'hui universellement mise en cause. Il reste que, pendant près de 500 ans, l'Église officielle, quoique fort ennuyée, et on la comprend, n'a pas osé s'attaquer de front à cette légende dont il n'est pas sûr qu'elle soit totalement dénuée de fondement. Cet événement inouï survint à Rome en 857. Une année terrible, ainsi que nous le décrit le duc de Castries. Le Tibre avait débordé et noyé les bas quartiers, la terre avait tremblé dans la péninsule, des nuées de sauterelles à six ailes et six pieds à Surbocas avaient dévoré les moissons et grignoté toutes les feuilles des arbres. Une épidémie de peste commençait à faire des ravages et les peuples en prière voyaient dans cet ultime fléau le signe certain de la malédiction divine. Malédiction qu'il fallait à tout prix conjurer. Les fêtes de l'Ascension approchaient. Une cérémonie d'expiation fut donc décidée à cette occasion. Elle revêtirait une solennité exceptionnelle. Le peuple était invité à participer en masse à la traditionnelle procession. Afin d'en assurer le succès, on avait demandé au pape, sa sainteté Jean VIII, de bien vouloir accepter de présider la cérémonie. Celle-ci avait accepté, bien qu'il fût réputé, ne soit point trop prisé des manifestations publiques. Contrairement en effet à certains de ses prédécesseurs qui n'avaient pas toujours honoré l'Église, Jean VIII était un pape discret, jeune, efficace, préférant le rude travail au Vatican à toute autre méthode de gouvernement. Il était monté sur le trône de Saint-Pierre en 855, succédant à Léon IV. En deux ans de pontificat, il s'était imposé. Ce pape avait été élu en dépit de sa jeunesse et du fait qu'à son élection, il n'était même pas prêtre. Il avait reçu les ordres saints aussitôt après l'élection. Né à Mayence, on le disait d'une beauté de très exceptionnelle. Et c'était la vérité. Mais surtout cet ancien moine germanique avait ébloui ses maîtres par une intelligence hors du commun. Il semblait être né et fait pour l'étude. Sa réputation avait très vite franchi les frontières, et sans même avoir postulé, il avait été élu pape. Sa discrétion, son peu de goût pour la foule, sa puissance de travail et sa beauté avaient engendré un mystère, une fascination qui ajoutait à son prestige. En deux ans, malgré sa jeunesse, il avait étonné par la sagesse de son gouvernement et de son administration. C'est lui qui avait créé l'institution du jeûne des quatre temps. De plus, il s'était révélé fin politique en acceptant la démission de l'empereur Lothaire, depuis retiré dans un couvent, puis en sacrant son successeur, le roi Louis II. Telle était donc la personnalité de ce Saint-Père, que l'on voyait si rarement et qui, cette année-là, avait accepté de présider la cérémonie d'expiation. Tous les Romains se pressaient dans les rues de la cité en ce jour de l'Ascension, et chacun d'eux espérait bien que le courroux divin s'apaiserait, que le bonheur et la prospérité reviendraient, et que le rôle de Jean VIII serait déterminant. Le cortège pontifical se mit en marche, salué par les cloches de Rome sonnant à toute volée. Jean VIII avait monté une mule blanche et il avançait lentement, abrité sous un dais suivi de tout ce que Rome comptait de moines, de prêtres, d'évêques et de cardinaux. La foule applaudissait à tout rompre, cette fragile silhouette habitée de tant de volonté et de capacité. Le soleil s'était mis de la partie au point que, de temps à autre, le Saint-Père, visiblement incommodé, s'épongeait le front. Ceux qui avaient la chance de se trouver au premier rang du public pouvaient à loisir apprécier l'étonnante finesse de ce visage qu'éclairaient les yeux de velours. Ce n'était donc pas une légende. Jean VIII était vraiment un très beau pape. Et les fidèles s'extasiaient. L'itinéraire de la procession avait été minutieusement étudié. Elle passait par le tombeau de Saint-Pierre, puis devant le Colisée, l'église Saint-Clément, et débouchait sur le Latran. Lorsque Jean-Louis et sa mule blanche arrivèrent devant l'église Saint-Clément, les Romains présents comprirent qu'un incident survenait dans le cortège. Ils virent, en effet, ceux qui entouraient le pape le prendre aux épaules comme s'ils voulaient le soutenir. Sa sainteté était sans doute victime de la chaleur, mais on perçut bien vite qu'il ne s'agissait pas d'un simple malaise. Jean VIII donnait des signes de souffrance. Il se tordait sur sa mule, et sans l'assistance de son entourage, il aurait chuté. La foule fut aussitôt très inquiète, non seulement pour la santé du pape, mais aussi en raison de la signification que pouvait avoir ce malaise grave. C'était un mauvais signe qui s'ajoutait à toutes les calamités subies précédemment dans la cité. Dieu n'était-il pas satisfait de cette cérémonie expiatoire ? L'état de Jean VIII ne semblait pas s'améliorer. Au contraire, les souffrances se firent indicibles, on l'entendit gémir. Il fallut le descendre de sa mule blanche et le transporter d'urgence à l'intérieur de l'église Saint-Clément. Le Saint-Père avait les mains crispées sur le ventre et la pâleur de son beau visage était impressionnante. La foule se tut, tandis que les évêques prenaient soin du Saint-Père. Or, ces évêques, penchés sur le pape, à même le pavé de la nef, ne savaient que faire pour le soulager tandis qu'il continuait à se tordre de douleur. Il fallut bien le dévêtir. Le cardinal, précautionneusement, prit sur lui de soulever doucement et avec respect la soutane du pape. Alors survint cet événement qui n'est pas près de se reproduire dans l'histoire pontificale. Les cardinaux et les évêques découvrirent sous cette soutane un spectacle plus que stupéfiant. Le pape Jean VIII accouchait d'une petite fille. Certains des prélats défaillirent. D'autres, saisis de panique et d'effroi, se signèrent en un réflexe bien compréhensible. Était-ce possible ? Ce pape était donc en réalité une papesse. Par surcroît, cette papesse avait péché. Et elle livrait le fruit de son péché le jour même d'une cérémonie d'expiation. Comment allait-on annoncer cette pétrifiante nouvelle à la foule des fidèles ? Et comment expliquerait-on plus tard cette terrible méprise ? L'Église se remettrait-elle de cet événement ? Telles furent quelques-unes des questions que se posèrent ce jour-là les honorables dignitaires de l'Église, réunis à Saint-Clément à Rome, autour d'une papesse qui avait accouché sous l'œil de Dieu. À l'issue d'un bref conciliabule, les prélats décidèrent, en quelque sorte, de vider l'abcès, et ils choisirent d'annoncer la nouvelle sur le champ. Le duc de Castries nous rapporte que la foule en fureur voulait forcer les portes de Saint-Clément pour massacrer la mère indigne et le fruit de son péché. Dieu y avait déjà pourvu. Dans un dernier sursaut d'agonie, la papesse avait rendu l'âme, tandis que son enfant cessait de vagir. La justice romaine condamna la coupable de ce sacrilège à être liée à la queue d'un cheval. Celui-ci traîna la dépouille pendant une demi-heure, tandis que le peuple lapidait. Les restes informes furent ensevelis dans une fosse creusée à l'endroit même où la malheureuse avait expiré. Restait à savoir qui était en réalité cette femme et par quel extraordinaire subterfuge elle était parvenue à se faire élire pape. Une enquête fut ouverte et elle aboutit aux conclusions suivantes. Cette Jeanne avait quitté son domicile à 18 ans, habillée en homme car elle aimait beaucoup ainsi se travestir. Très belle, d'une rare intelligence, les cheveux coupés ras, elle était parvenue à abuser les autorités. Elle avait acquis la réputation et l'identité d'un moine à la personnalité exceptionnelle. Elle donnait l'impression d'un jeune homme frêle, sous une finesse et qui avait permis de surmonter un à un les obstacles. Quant à son audace, on croira volontiers qu'elle était sans limite. Au Vatican, elle était devenue la maîtresse de Lambert de Saxe, ambassadeur à Rome, ce qui avait causé sa perte. Et maintenant, sans doute, est-il temps de rechercher les origines de ces chroniques et d'une pareille légende. Car si la papesse Jeanne n'a pas existé, elle demeure un mythe aujourd'hui, et il a bien fallu que ce mythe fût enraciné dans quelques réalités. D'après le duc de Castries, cette réalité est constituée par les scandales retentissants qui, entre 929 à 972, éclaboussèrent le Vatican. Durant cette période, quatre papes Jean menèrent une vie dissolue et tombèrent entièrement sous l'influence de leur maîtresse ou de courtisane. Un dicton de ce temps-là affirmait « Nous avons des femmes pour pape ». De plus, les protestants hostiles à la papauté s'emparèrent de cette légende et tentèrent de la faire entrer dans la mémoire historique. L'offensive fut si rude que près de 5 siècles furent nécessaires pour la repousser et qu'aujourd'hui encore, le mythe de la papesse est toujours debout. Il s'appuie sur une tradition du Moyen-Âge qui voulait que tout pape nouvellement élu prît place sur une chaise percée de façon qu'un cardinal, en regardant au-dessous, puisse assurer que ce pape était vraiment un homme. Certains n'hésitèrent pas à voir dans cette tradition la preuve que la papesse Jeanne avait bel et bien existé. On comprend pourquoi les plus hautes autorités de l'Église aujourd'hui ne sont pas favorables à ce que les femmes soient ordonnées prêtres. May it be an evening star. Je vous en...
Quelle histoire, la papesse Jeanne que vient de conter Didier Dumas, c'est vraiment une histoire tout à fait exceptionnelle que nous sommes heureux de vous avoir présentée. Vous êtes à l'écoute de CFM Radio 90.2, CFM Radio Villefranche, et vous pouvez aussi nous entendre sur CFM Radio Figeac, fréquence 101.6. Michel Montbressus, donc, est à l'antenne, je vais vous raconter l'histoire de la crise de 1929. Le 6 novembre 1928, les États-Unis se donnent un nouveau président, Herbert Hoover, qui succède à Calvin Coolidge. Après à peine entré en fonction, Hoover déclare « Nous, en Amérique, nous sommes plus près du triomphe sur la pauvreté qu'aucun peuple n'a jamais été au cours de son histoire. Et il est bien vrai que l'Amérique des années 20 est puissante, prospère, en continu développement. » Entre 1921 et 1929, le revenu par tête augmentera de 30%. Vers 1925, des immeubles gigantesques surgissent du sol et transforment les villes américaines. En 1920, on compte 8 millions d'automobiles. En 1930, 23 millions. Cette industrie automobile révèle l'existence de ce qu'on appellera un marché de masse. De plus en plus de citoyens doivent pouvoir acheter de plus en plus de produits. Les radios, les réfrigérateurs, les cuisinières électriques se vendent par millions. Des fortunes colossales s'édifient. Insull, Rockefeller, Ford. C'est l'avènement du travail à la chaîne, le règne de la productivité. Le président Hoover peut s'installer tranquillement à la Maison-Blanche. Les ouvriers américains touchent des salaires élevés. Le chômage est pratiquement inexistant et, grâce au crédit, les citoyens aux revenus modestes ont cependant, eux aussi, les moyens d'acheter, de consommer. Les usines tournent, l'Amérique regorge d'argent. La guerre de 1914-18, si elle a ravagé la vieille Europe, n'a guère effrité le potentiel américain. Au contraire, elle a contribué largement au fonctionnement et à l'essor de la machine économique. Les États-Unis sont saisis par le commerce, le business, comme ils disent. Leurs héros, leurs modèles sont ces personnages dynamiques et astucieux qui, partis de quelques dollars, étalent maintenant leur réussite. La politique extérieure est fondée sur le protectionnisme. On veut bien prêter des dollars à l'étranger, mais non échanger librement les produits. Telle est donc la situation lorsque le président Hoover accède au pouvoir. Ni lui, ni ses ministres, ni ses experts, ni ses banquiers, ni ses industriels ne pressentent la tornade qui va bientôt s'abattre sur cette économie aussi égoïste que florissante. Comme toujours, l'expansion sauvage fait des victimes. C'est ainsi que l'industrie textile affronte de graves problèmes, que les constructions navales éprouvent de sérieuses difficultés, que la production de charbon diminue et que le monde agricole subit durement la baisse des prix. En outre, les disparités entre le Nord et le Sud sont loin d'être atténuées. Le Sud reste pauvre, arriéré et connaît encore la misère. À ces zones d'ombre s'ajoute un certain nombre d'anomalies. D'abord, un protectionnisme farouche interdit aux industries américaines les marchés extérieurs. Plutôt que d'acheter des produits, les États-Unis prêtent leur argent, notamment aux Européens. Ainsi, la balance commerciale est en équilibre, mais sur des bases malsaines. Il suffirait en effet que, pour des raisons quelconques, l'Amérique retirât son argent et il s'ensuivrait une vaste pénurie de dollars, donc une crise terrible. Cependant, les apparences et les réalités sont si étroitement emmêlées qu'il ne viendrait à l'idée d'aucun spécialiste de douter de la solidité de l'économie et de la société des États-Unis. Pourtant, cette société n'est pas sans problème. En 1919, sous la pression de ligues vertueuses, et en particulier des femmes, la loi Volstead interdit la consommation de toute boisson alcoolisée sur le territoire américain. Belle illustration de l'adage « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». La prohibition engendre évidemment la contrebande. Le citoyen qui veut boire une bière doit désormais l'acheter en cachette et au prix fort. À qui ? À des truands de haut vol qui ne tardent pas à établir une puissance redoutable. C'est la naissance, l'essor, l'apogée de la grande pègre et de ses chefs célèbres. C'est le règne d'Al Capone. Chicago devient la ville la plus pourrie du monde. La police, l'administration, le personnel politique sont corrompus et entre les mains de la mafia. Et comble d'ironie, l'alcoolisme prend des proportions effrayantes. En un an de prohibition, les Américains achètent aux trafiquants 900 millions de litres d'alcool, 3 000 millions de litres de bière et 530 millions de litres de vin. C'est aussi l'époque du Ku Klux Klan, organisation raciste, anti-noir, anti-juive et anti-catholique. Le citoyen Scoop est accusé et jugé dans la surexcitation pour avoir pensé que l'homme pouvait descendre du singe. Sacco et Vanzetti sont condamnés pour anarchisme et communisme. Dans les petites villes, la moyenne bourgeoisie puritaine sombre dans l'hypocrisie. Derrière le masque de la vertu se dissimulent les pires tendances. Les lois sont violées couramment. Les divorces se multiplient. La fraude devient la règle. La corruption s'étend. L'art de vendre supplante tous les autres arts. Les valeurs spirituelles s'effacent devant la frénésie de s'enrichir ou de tirer profit de n'importe quelle situation. Ce mélange de prospérité et de déliquescence recèle les germes d'une explosion inévitable. Le 3 septembre 1929, les valeurs à la bourse de New York battent tous les records. Le bond en avant de l'industrie américaine en 1928 a provoqué une immense vague de spéculation. Plus de millions de personnes jouent en bourse, encouragées par les banques, les hommes d'affaires et le gouvernement. Une partie des citoyens cherche naturellement à bénéficier des profits réalisés par les entreprises. Mais la majorité n'a qu'une idée en tête, réussir un coup, devenir riche le plus vite possible. L'ambiance favorise ces rêves de gens souvent modestes. On se répète l'exemple de tel ou de garçon d'ascenseur qui, en un an, a amassé une fortune uniquement en achetant au bon moment des titres et en les revendant à l'heure opportune. Pourquoi pas moi ? Telle est la question que se posent tous les Américains. Les autorités se réjouissent de l'intérêt ainsi porté aux affaires. Ils y voient un signe de vitalité, un symbole du dynamisme de l'économie. Cette spéculation, elle l'organise méthodiquement. Des réseaux de téléscripteurs couvrent les États-Unis. Des milliers de bureaux répartis dans tout le pays transmettent les ordres à la bourse de Wall Street. De larges facilités sont offertes à ceux qui ne disposent que de peu de moyens. Par exemple, lorsqu'on achète des actions, on peut ne verser que 10% du prix, les banques assurant le relais. Quand la valeur a triplé ou quadruplé, on touche ses gains, on rembourse l'argent de change et on verse un intérêt très raisonnable. La fortune est en marche à partir de presque rien. En 1927, ses crédits de bourse sont montés à 3 milliards de dollars. En août 1929, deux ans après, ils atteignaient 7 milliards de dollars. Cette spéculation formidable fait bien sûr monter les cours. Mais voilà beau temps que le prix des actions a dépassé la valeur des biens qu'elles sont censées représenter. Vous entendez bien ? Le prix des actions a dépassé la valeur des biens qu'elles sont censées représenter. Une situation qui ne peut durer. La santé de la bourse est factice. Au moindre signal d'alarme, le mécanisme peut brutalement s'inverser. Effectivement, un grain de sable va s'introduire dans les rouages de la machine emballée. Un minuscule grain de sable. Le samedi 19 octobre 1929, une nouvelle anodine parvient au public. Le banquier Morgan avait fait don au gouvernement d'un yacht. Et voici que le secrétaire d'État, donc au commerce, déclare éprouver des difficultés pour entretenir ce yacht avec l'argent de l'État. Pourtant, la somme nécessaire ne se monte qu'à 5 000 $. Que se passe-t-il ? En plein essor économique, en une période de prospérité sans précédent, l'État américain est en mal de 5 000 $. C'est la stupeur. Et déjà la panique. En quelques heures, près de 3,5 millions d'actions changent de propriétaire. Le lundi 21, les transactions se chiffrent à 6 millions. Les Américains ont des sueurs froides. Chacun comprend qu'il peut, quelle que soit sa fortune, se retrouver ruiné en moins d'une heure. Bientôt, c'est la ruée. Tout le monde veut vendre. Le malheur, c'est que la plupart des spéculateurs, ne possèdent que 20 ou 30% de leur portefeuille. Le reste est prêté par les banques. C'est la perspective d'un endettement sans issue. La première vague de suicides survient. Le jeudi 24 octobre, près de 13 millions d'actions changent de main. Les 6 banquiers les plus puissants d'Amérique se réunissent et décident de soutenir les cours. Malgré leurs efforts, la confiance ne sera pas rétablie. Ils obtiendront seulement 2 jours de répit. Contre l'évidence, les autorités s'accrochent et se répandent en déclarations rassurantes. Le président Hoover affirme même « Les principales activités du pays, c'est-à-dire la production et la distribution de biens, sont fondées sur des bases solides. Achetez maintenant, la prospérité est au coin de la rue. » Une voix bien isolée s'élève cependant, celle du gouverneur de l'État de New York. Il a 48 ans. Et en dépit d'une infirmité qui le cloue dans un fauteuil roulant, les Américains se souviendront de lui un jour. Il s'appelle Franklin Roosevelt. Le mardi 29 octobre, c'est la catastrophe. Le fameux 29 octobre. Les gens se débarrassent de 16,5 millions d'actions. La misère s'abat sur l'Amérique. Un officier de 42 ans est chargé de réprimer une manifestation. Son nom, Eisenhower. L'Europe subit les effets de cette crise terrible. Le désordre s'installe en Allemagne, en France, en Autriche, en Grande-Bretagne et même au Japon et en Australie. Les Américains liquident leurs valeurs étrangères. L'heure est venue de la Grande Dépression. Les économies malades puis convalescentes se traîneront ainsi jusqu'à la guerre mondiale. La crise de 1929 restera dans l'histoire comme un épouvantail. Elle se chargera d'un symbole au fil des ans, celui de la fragilité du progrès et de la prospérité. Aujourd'hui, les esprits éminents poursuivent de savantes discussions sur un sujet sinistre. Une telle crise a-t-elle ou non des risques de se reproduire un jour ? Telle est la question de nos jours.
Alors avons-nous vraiment une mémoire ? Michel.
J'espère que nous aurons une mémoire. Et cette histoire est très intéressante parce qu'avec tous les tumultes que nous connaissons actuellement, on ne sait pas ce que la pandémie va amener, mais il est bien certain que l'économie va souffrir. Donc, des problèmes se présenteront. On ne va pas parler de catastrophe, mais il est certain qu'il faudra envisager la prudence. Il faudra envisager d'être prudent lors de transactions. Il faudra envisager de mieux répartir les richesses, peut-être. Enfin, ce n'est pas à nous de voir comment il va falloir traiter ces sujets, mais il faudra les traiter.
C'était une petite histoire de visa pour l'inconnu qui appartient à la grande histoire et qui se répète aussi, on peut le craindre, et nous désespère aussi parfois. En attendant, un petit morceau musical avant de conclure cette belle émission. Merci.
J'envoie des kisses, donne des bijoux dans le cou. C'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent, roulent, qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi, je m'en moque, j'envoie valser les trucs en toc. Les cages dorées, toi quand tu me sers très fort, c'est comme un trésor, et ça vaut de l'or. J'envoie des qui se lancent, des regards et des fleurs, puis qui se laissent quelque part ou ailleurs, entre les roses et les choux. J'en connais des tas qui feraient mieux de s'aimer un peu comme nous qui nous aimons beaucoup, et d'envoyer ailleurs valser les bagues et les cœurs en collier. Comme un trésor, et ça vaut de l'or.
Vous êtes à l'écoute de CFM Radio, la radio que l'on aime, CFM Radio Villefranche et Figeac. Vous pouvez réécouter cette émission après-demain, le samedi 27 à 11h, de 11h à midi. Vous aurez le mois prochain une rencontre avec nous-mêmes, Didier Dumas et Michel Montbressouze, dans le cadre de l'émission Visa pour l'inconnu. Nous recevrons un invité, nous tairons le nom pour le moment, puisqu'il n'est pas vraiment arrêté. Et vous pourrez nous écouter à ce moment-là, exactement un mois après, le jeudi 25 mars. Nous reviendrons sur cette émission Visa pour l'inconnu le mois prochain.